la barbe du globe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'À la barbe du globe en compagnie du voyageur et photographe Olivier Joly. Olivier Joly, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Merci Thomas.
Alors Olivier Joly, vous avez parcouru les recoins les plus reculés de notre planète en tant que journaliste et photographe, de l'Arctique à l'Antarctique en passant par les îles Aléoutiennes. Alors un appel lancinant vers les terres froides et venteuses qui a fini par vous mener en Islande, votre terre promise hein, dont vous connaissez les régions les plus reculées et sauvages. Alors c'est une échappée dans une Islande hors du temps que vous nous offrez notamment dans votre livre Saga qui est paru aux éditions Emeria. Cependant, avant de vous passionner par ces bouts du monde, vous avez eu une longue carrière de reporter et de journaliste sportif. Est-ce que cet appel du lointain, vous travaillez déjà à cette époque ou comment s'est opéré finalement ce changement de cap ?
Oui, il me travaillait déjà beaucoup. C'est vrai que j'étais reporter au service des sports et ce qui m'a toujours intéressé, c'est les histoires humaines autour du sport. Par exemple, j'ai fait un reportage qui m'avait beaucoup marqué à la recherche du plus vieil All Black, rugbyman néo-zélandais, vivant. C'était un homme qui avait connu l'équipe nationale néo-zélandaise dans les années 30 et qui, dans ses carnets de bord, racontait comment il avait traversé le monde entier en bateau pour se rendre en Angleterre et pour rencontrer la reine d'Angleterre, lui qui était un petit paysan de Te Kuiti, une région un peu perdue de Nouvelle-Zélande. Donc ces histoires-là m'ont toujours fasciné. Et en même temps, parallèlement, j'aimais la photo et en autodidacte, je me suis lancé dans des voyages, mais des voyages au long cours. C'est-à-dire que je ne partais pas sur un voyage et puis je cochais une case et j'allais sur le suivant. Au contraire, j'ai toujours voulu approfondir. C'est comme ça que j'ai découvert Madagascar, vraiment, je crois, très, très profondément, un petit peu dans toutes les régions, à la rencontre des 18 peuples de Madagascar. Et ça m'a vraiment fasciné. Ça a été mon premier travail au long cours, le premier travail un peu reconnu qui m'a permis de faire un livre qui, à l'époque, a été un grand succès, de vendre mes photos en agence et de commencer à me faire un petit nom en photographie. Et pendant quelques années, j'ai comme ça poursuivi en parallèle ces deux carrières parce que écrire, c'est aussi une partie très importante de ma vie. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de quitter le journal dans lequel j'avais travaillé pendant très longtemps, le journal du dimanche, et de me lancer dans une carrière solo où la photo prendrait de plus en plus d'importance. Et c'est comme ça, dans ces premières années de photographe et journaliste indépendant, que j'ai eu l'occasion de faire quelques voyages extraordinaires que vous avez fait, les Aléoutiennes, l'Antarctique. C'est des lieux très très lointains où j'ai eu la chance d'aller et de voir des choses que je n'avais jamais vues ailleurs.
Et vous mentionnez cette importance de l'histoire humaine. Une autre rencontre que vous avez pu faire d'ailleurs dans ces années-là, ça a été la rencontre d'un grand écrivain et poète américain, un poète des grands espaces, hein, c'est Jim Harrison, qui est aussi par ailleurs un grand défenseur de la nature. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre ?
Oui, bien sûr. Alors Jim Harrison, pour ceux qui ne le connaîtraient pas très bien, c'est un écrivain américain du Montana qui a écrit énormément de romans et notamment ses deux plus connus. C'est Légende d'automne qui a été adapté au cinéma et Dalva qui est probablement son chef-d'œuvre avec sa suite La Route du Retour. J'ai toujours une fascination pour cet écrivain qui représente une forme de liberté dans le ton, dans la vie. Et j'ai d'ailleurs appelé ma première fille Dalva en hommage à ce personnage qui est un magnifique personnage de femme. Et un jour, son éditeur Flammarion a eu la gentillesse de me proposer, parce qu'il savait que je l'aimais énormément cet écrivain, d'aller à sa rencontre. Il était dans ses dernières années, il n'était plus en très grande forme, mais c'était encore un homme truculent qui racontait des histoires, notamment comment il avait, quelques mois plus tôt, après qu'un de ses chiens ait été mordu par un serpent, décidé de faire venir un chasseur de serpents dans sa propriété, et il avait retiré, je crois, plus de 300 serpents à sonnette. Donc il avait énormément d'histoires fascinantes comme cela. Il écrivait encore des très beaux poèmes. Et c'est un des plus marquants reportages de ma vie. Ouais. Là encore, c'est une histoire humaine dans son environnement, parce que Jim Harrison, il est indissociable du Montana où il vivait une partie de l'année et de l'Arizona où il vivait l'autre partie de l'année.
Et vous travaillez par la suite d'ailleurs avec un autre grand écrivain et poète qui est lui chilien. Pour le coup, c'est Patricio Mans. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous avez mené sur place, mais aussi comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et avez-vous décidé de travailler ensemble ?
À l'époque, je voyageais en Patagonie. C'était vraiment, ça a été après Madagascar mon travail au long cours suivant. J'ai voyagé au Patagonie. Et dès le premier voyage, j'ai pris des livres d'écrivains parlant de ce pays, de cette région du monde qui est donc à l'extrême sud du Chili et de l'Argentine. J'ai amené des livres d'écrivains comme Francisco Colohane, Luis Sepúlveda et Patricio Mans. Patricio Mans, il a un seul livre traduit en français qui s'appelle Cavalier seul. Petite parenthèse, le titre original de ce livre, c'est El corazón a contraluz, le cœur à contre-jour, ce qui est, je trouve, beaucoup plus beau que Cavalier seul. Mais ce livre m'a absolument emporté. C'est une tornade de mots, d'images. C'est vraiment un livre qui se passe en terre de feu, qui raconte l'histoire réelle de Julio Popper, qui était un aventurier roumain qui est venu chercher de l'or dans cette région du monde et qui se bute avec les Indiens fuégiens, qui a été d'ailleurs extrêmement cruel avec eux, mais qui a vécu une vie d'aventurier, voilà. Et j'avais tellement aimé ce livre que j'ai écrit à Patricio Mans et je lui ai dit, je suis en préparation d'un livre de photos, est-ce que vous accepteriez d'écrire les textes pour moi? Et il m'a répondu, pourquoi pas, il faut qu'on se rencontre. Et donc à la fin du voyage suivant, je suis allé le voir à Valparaíso, où il vivait, et on a parlé longuement. Patricio Mans, c'était un homme qui avait quitté le Chili à l'époque de Pinochet, qui s'était réfugié en Europe, à Genève, et qui a vécu une vie d'exil, comme énormément d'artistes à cette époque, qui malheureusement n'a choix là. Et ben, le contact est très bien passé, je crois qu'il y avait de la passion des deux côtés, et il m'a dit, OK, je vais écrire tes textes. Et il m'a écrit des textes absolument superbes, vraiment, j'ai jamais regretté de ne pas avoir écrit moi-même les textes de ce livre, parce qu'il les a écrits avec un cœur, c'était quelque chose d'assez magnifique. C'est un livre qui malheureusement aujourd'hui, je crois, est assez introuvable, qui s'appelait Quatre saisons en Patagonie, qui a été édité chez Gallimard. Et voilà, je relis parfois les textes de Patricio Mans et j'ai malheureusement eu la tristesse de découvrir il y a peu qu'il était mort il y a environ un an. Et je ne l'avais pas appris parce que sa femme, avec qui j'étais le plus en contact, était elle-même morte quelques semaines avant lui. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de peine et c'est un personnage très important que j'ai rencontré. J'incite vraiment tout le monde à lire Cavalier seul, qui se trouve encore aujourd'hui en librairie, on peut le commander, et qui est, je pense, le plus beau livre qui a été écrit sur la Patagonie et un des plus beaux exemples de ce qu'on appelle le réalisme magique, qui est cette littérature tout à fait propre à l'Amérique du Sud, qui mêle des éléments naturels extrêmement forts et en même temps des choses relevant un petit peu de la magie, de l'imagination, du monde invisible.
Et vous parliez un peu plus tôt de Madagascar, qui a été, je pense, un voyage fondateur, hein, pour vous. Vous y êtes retourné, de nombreuses fois, pendant 4 ou 5 ans, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce point dans ce pays?
Madagascar, ça fait partie de ces destinations dont les gens qui en reviennent vous disent que ça a quelque chose de magique. Ça va au-delà de la beauté des paysages, de la gentillesse des gens. Il y a une espèce d'harmonie entre ces peuples et ces terres, une espèce de relation très profonde à la terre, aux ancêtres, qui fait qu'un voyage à Madagascar, c'est toujours une très grande aventure. Mais c'est vrai que la gentillesse des Malgaches, c'est quelque chose qui contribue très largement à faire de ce pays un endroit où on passe des moments inoubliable, vraiment. À l'époque, je bivouaquais beaucoup, donc on va dans les endroits extrêmement perdus. Il m'est arrivé de descendre des rivières en rafting où les gens n'avaient pas vu d'Européens depuis des années. Et on était accueillis par des enfants qui avaient même peur de nous. C'était assez étonnant, assez touchant. Et il fallait, dans ce cas-là, ben, se poser un peu à l'écart du village. Et puis, en général, un ancien venait, parlementait, on discutait, on lui offrait des fois un petit verre de rhum. Et puis, très vite, il allait au village et il disait, ben voilà, ces gens-là sont sans danger, vous pouvez aller les voir. Et derrière, il y avait un contact qui s'établissait avec des gens qui étaient, ben voilà, qui n'avaient pas été pollués par notre mode de vie, par notre mode de réflexion, étaient extrêmement authentiques et vivant pleinement dans leur terre et dans leur époque.
Et vous avez publié un livre sur le pays, c'est quelque chose qui est né sur place ou vous aviez déjà cette idée dans un coin de votre tête?
C'est exactement ça. C'est au bout de quelques voyages, peut-être 3 ans de voyage, c'est-à-dire 6 ou 7 voyages, j'ai regardé mon fonds photographique et je me suis dit, mais il y a matière à faire quelque chose. Alors j'avais eu la chance de faire quelques couvertures de magazines, par exemple, une très belle couverture de Géo que j'ai encore chez moi, que j'aime particulièrement. Je crois que dans l'histoire de Géo, c'est peut-être la seule couverture qu'ils ont fait sur un portrait et non pas sur un paysage. Donc je suis assez fier de ça, d'autant qu'aujourd'hui, je crie pour Géo, le magazine qui a bercé mon enfance. Enfin, je travaille pour Géo, j'écris et je photographie pour Géo. Donc voilà, j'ai fait ces couvertures de magazines et je me suis dit, mais il y a peut-être plus ambitieux à faire, d'autant plus que j'avais pris des notes à chacun de ces voyages, beaucoup de notes, et que je voulais raconter tout ça. Et puis j'ai trouvé un éditeur, c'était une époque où les beaux livres marchaient très bien, plus qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les plateformes, les réseaux sociaux, les documentaires sur les chaînes du câble qui permettent de découvrir ça. Donc les gens découvraient encore un pays, une destination, ses coutumes à travers les livres. Et donc j'ai fait ce livre qui s'appelait simplement Madagascar et qui, comme je vous le disais, a été vraiment le plus grand succès que j'ai eu avec un de mes livres. Je vois encore des gens qui m'en parlent, c'est vraiment très chouette.
Et avant de parler de l'Islande, qui est aujourd'hui au cœur de votre travail et même de votre vie, comme on va le voir, vous avez également travaillé bien au large d'ailleurs, des côtes argentines, en Géorgie du Sud, dans ces terres complètement perdues dans le sud de l'océan Atlantique.
Oui, alors la Géorgie du Sud, rien à voir évidemment avec la Géorgie américaine ni avec la Géorgie du Caucase. C'est une île qui est à 1000 km à l'est d'Ushuaïa, donc de l'extrême sud de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'on est en plein Atlantique Sud, dans les 50e hurlants, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans les 40e rugissants, on est plus bas. Donc la mer est vraiment à cet endroit-là quelque chose d'un élément extrêmement puissant, souvent déchaîné. Et un ami avait envie de faire un documentaire sur cet endroit et m'a proposé de venir pour faire le livre qui accompagnerait le documentaire. Donc il a affrété un bateau, une goélette qui faisait 18 mètres, je crois. Et puis on est parti là, en équipe réduite et on est parti pendant 10 semaines parce qu'il faut une bonne semaine pour arriver là-bas. Et puis c'est une île assez vaste, très très montagneuse. Et surtout, la particularité de la Géorgie du Sud, c'est que c'est la pouponnière de l'Antarctique. C'est-à-dire que tous les animaux de l'Antarctique, toute la faune antarctique, vient en Géorgie du Sud parce qu'il n'y a pas de glace pour mettre bas. Donc à la saison où on y est allé, c'est-à-dire à l'automne, au printemps austral, les plages sont couvertes de centaines de milliers de manchots, d'otaries, d'éléphants de mer. C'est un vacarme assourdissant. Et pendant donc presque sur place 7-8 semaines, on a arpenté chaque baie, chaque petite île avec des albatros, et on est allé à la rencontre de cette faune et de ces paysages extraordinaires. La Géorgie du Sud, c'est aussi un endroit connu pour être celui qu'a rejoint le grand explorateur Ernest Shackleton, après que son bateau a été pris dans les glaces en Antarctique, et après un périple insensé, il a rejoint la Géorgie du Sud, il a affrété un autre bateau, évidemment les Anglais étaient surpris de le voir arriver, fiers, et ils l'ont renvoyé avec de quoi sauver l'essentiel de son équipage. Donc la Géorgie du Sud, dans l'histoire de l'Angleterre, c'est une île qui a vraiment un parfum très particulier.
Et un autre parfum qui a fini par embaumer votre vie, c'est celui de l'Islande. Alors pour un peu nous plonger dedans, je vous propose d'écouter un court extrait issu de votre livre « 4 saisons en Islande ».
À l'échelle géologique, l'Islande est au printemps de sa vie. Elle n'a que 25 millions d'années. C'est une enfant turbulente, imprévisible, au caractère volcanique. Il y a de quoi. Née en surplomb de la dorsale médio-atlantique, elle a aussi grandi au-dessus d'un point chaud. Elle est à cheval sur deux plaques continentales qui s'écartent selon un axe sud-ouest-nord-est, comme on peut le voir sur la péninsule de Reykjanes. Et à la verticale d'un endroit où le manteau terrestre se trouve soumis à des remontées régulières de magma. Ce qui explique les 200 volcans actifs, les 130 éruptions du millénaire ou le fait qu'un tiers des laves produites dans le monde depuis 5 siècles allaient été sur ce gros caillou. Pour qui n'a pas la chance de visiter l'île pendant une éruption, il existe d'autres signes du volcanisme actif. La terre fumante que l'on aperçoit des Hrafnagerdi à 20 minutes de Reykjavik, les innombrables champs de lave, nus ou moussus, les fumerolles et marmites de boue des zones géothermiques. La rhyolite, roche acide qui dessine des veines rouges, vertes ou bleues sur le flanc des montagnes.
Alors Olivier Joly, vous avez réalisé un travail tout à fait extraordinaire sur l'Islande, un pays dans lequel vous êtes allé régulièrement, et ce depuis une dizaine d'années, qui a abouti notamment au livre dont l'extrait qu'on vient d'entendre est issu, 4 saisons en Islande, mais aussi à ce fabuleux livre qu'est Saga, que vous avez publié en novembre 2021 aux éditions Emeria. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce pays?
Alors il faudrait deux, trois émissions pour que je vous dise ce qui me fascine dans ce pays. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'y suis retourné pour la troisième fois, donc en 2009, les deux premiers voyages, c'était le premier un voyage en reportage, donc j'ai pas eu le temps de m'immerger, et le deuxième un voyage hivernal où j'ai vu une Islande totalement blanche, donc j'ai pas perçu la variété de ce qui pouvait m'attendre sur cette île. Quand j'y suis retourné en 2009, j'ai vraiment reçu un électrochoc et je me suis dit, il y a quelque chose, c'est chez moi ici. Et cette sensation s'est vraiment vérifiée voyage après voyage, à mesure que j'essayais d'aller voir dans chaque coin de la carte que je n'avais pas encore exploré, ce qu'il y avait à cet endroit-là. Donc ce qui me fascine en Islande, c'est à la fois la beauté et plus encore l'étrangeté des paysages. C'est vraiment ça que j'ai cherché à saisir. Comme tous les voyageurs dans mes premiers périples, j'ai cherché à photographier donc ces paysages, leur grandeur, leur étrangeté. Et puis, le temps passant, je suis allé voir un petit peu au-delà des spots les plus touristiques, c'est-à-dire au-delà des cascades, des glaciers, de ce qui attire le gros des touristes, pour aller voir des endroits qui sont pas forcément aussi majestueux, mais qui ont une petite magie, en fait. Donc l'Islande, c'est ça pour moi, c'est des choses extrêmement différentes, c'est-à-dire des champs de lave, mais un champ de lave, ça peut être à la fois un endroit extrêmement abrasif, tout à fait noir, si la lave est récente. Par exemple, il y a dans mon livre 4 saisons en Islande une photo de l'éruption de 2015, et on a l'impression que c'est un univers totalement minéral, inhospitalier au possible. C'est de la lave très récente. Et puis, à contrario, vous avez des endroits où l'éruption date de plusieurs milliers d'années, et sur la lave, c'est formé une mousse épaisse, très fragile. Il faut faire bien attention de ne pas piétiner, mais si on y va très doucement, on peut se lever entre deux rochers sur une mousse comme ça, et écoutez, on a l'impression d'entendre vraiment battre le cœur du monde. L'Islande, c'est ça. Il faut imaginer que, alors que en France, le magma est à environ 10 km sous nos pieds, et bien en Islande, il est à 2 km sous nos pieds. Donc il y a une espèce de force magnétique, de force tellurique qui remonte à la surface. Et c'est pas pour rien que comme moi, tous les voyageurs qui vont en Islande en reviennent plus que impressionnés. Il y a quelque chose d'assez magique qui les a marqués. Et c'est ça l'Islande, c'est cette magie vraiment à tout moment. Et puis pour un photographe, il y a des lumières vraiment très particulières. Moi, j'aime de plus en plus photographier pendant les intempéries, c'est-à-dire qu'un ciel bleu ne m'intéresse plus vraiment, mais un rayon oblique qui passe entre les nuages, là, ça commence à me titiller. Et puis parfois sortir sous la pluie, sous vraiment des gros nuages, et puis se rendre compte que pendant 5 minutes, il y a une éclaircie qui donne une lumière féerique. Et ça, vraiment, c'est ce que je recherche de plus en plus en retournant en Islande, puisque depuis 2009, j'y retourne 1, 2, 3, 4 fois par an. L'année dernière, c'était 4 fois. Et j'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir vraiment y voyager de plus en plus, parce que l'envie ne m'est pas passée. J'ai encore envie de découvrir beaucoup de choses. Le même endroit, à deux saisons différentes, peut prendre des allures, des contours complètement différents. On n'est pas dans le même monde. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est la surprise qui m'attend. Je sais où je vais, je ne sais pas ce que je verrai jamais.
Et c'est ça, c'est des paysages intenses, volcaniques, montagneux, d'une beauté parfois qui semble assez austère. Aussi, une île, vous l'avez dit, qu'on dit en constante évolution, du fait de son volcanisme incessant. Si vous avez à nous décrire une de vos photos qui représente le mieux l'Islande telle que vous la percevez, ce serait laquelle qui vous viendrait à l'esprit ?
Ben écoutez, c'est simple. J'ai une exposition qui a été lancée en même temps que sortait le livre Saga. L'exposition s'appelle aussi Saga, et il y a une photo qui jusqu'à présent marche très bien, puisque sur les 15 exemplaires disponibles, je crois qu'on atteint déjà presque le 10e. Cette photo, c'est un personnage seul sur une ligne de crête. Donc on est sur une montagne au premier plan, légèrement arrondie. Et puis à l'arrière-plan, il y a une autre montagne, et sur cette montagne, on a l'impression de distinguer des visages, des formes très étranges. Il y a une petite neige qui baigne tout ça, c'est une neige, vraiment la première neige. Donc on voit à la fois des flocons qui volent un peu dans l'air, et puis en même temps on voit au sol cet aspect un peu mélange de peinture au fusain et de petits pointillés comme ça, presque impressionnistes de neige. Cette photo, elle est très belle, elle illustre pour moi la solitude, le sentiment de solitude, de plénitude et de contact direct avec la nature qu'on peut éprouver. Et pour l'anecdote, je ne m'attendais vraiment pas à prendre cette photo, puisque je suis parti du bas d'un chemin et en montant quelques peut-être 100 ou 150 mètres, et ben écoutez, la pluie qu'il y avait en bas, qui était vraiment une pluie battante, se transformait là-haut en petite neige. Et donc j'ai eu le temps de prendre une photo avant que la neige devienne trop forte. Et c'est vrai que cette photo, elle exprime vraiment tout ce que je ressens dans ce pays. Et c'est vrai que mon premier travail, comme je vous le disais, 4 saisons en Islande, ça a été quelque chose de plus, on va dire, c'était un livre de voyage, c'est des photos, même si j'ai saisi une Islande un peu différente de celle qu'on voit en général, ça restait une Islande en couleur, qui représentait quand même quelques-uns des plus beaux lieux, et aussi des lieux moins connus, qui représentait aussi les oiseaux, qui montrait un peu l'Islande sous toutes ses saisons, comme le nom l'indique. Et Saga, qui est un travail en noir et blanc, m'a poussé à montrer une Islande différente, une Islande plus minérale, plus tellurique, plus impressionniste. Les gens qui ont vu ces deux photos me disent en général, ton premier livre s'adresse aux yeux et ton deuxième livre s'adresse au cœur. On le ressent beaucoup plus qu'on ne le voit. Et ça, c'est vraiment ma démarche aujourd'hui, c'est d'aller chercher quelque part cette essence, ce côté organique à l'Islande et de la faire deviner. Faire deviner le souffle du vent, c'est une autre de mes photos que j'aime beaucoup. On voit simplement une prairie avec des nuages, pour connaître, assez extraordinaire, une forme de nuage très, très travaillé, très marbré, et puis simplement ces herbes couchées par le... Et si on se pose devant cette photo, je crois qu'on peut vraiment entendre souffler le vent. Et je cherche vraiment de plus en plus à faire sentir ça, la neige, le vent, l'isolement, les sensations brutes que ce pays peut apporter.
Oui, d'ailleurs, le spectacle il est tout autre, hein, lorsqu'on voit vos photos en couleur et puis en noir et blanc, hein, ces deux visages de l'Islande, hein, que vous nous offrez. Qu'est-ce que ça vous procure, ces endroits reculés? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être de plus que les autres?
Ah, c'est une façon de... Je ne sais pas comment vous dire. C'est une façon peut-être de transformer chaque jour en une petite aventure, finalement. C'est d'aller à la rencontre de quelque chose. C'est pas, je ne cours pas de risque, je ne fais rien d'extrême, ça je tiens vraiment à le préciser. Moi, de plus en plus, je voyage dans les hautes terres de l'Islande. C'est donc cette partie qui est à l'intérieur. Les Islandais appellent ça Midalendid, c'est-à-dire les hautes terres centrales. C'est un endroit qui est fermé 9 mois par an, qui ouvre au début de l'été et qui ferme à la première grosse tempête de neige. Et dans ces endroits, c'est vrai qu'on est loin de tout. Il n'y a pas de route, il n'y a que quelques pistes. Il y a des rivières à traverser pour passer d'un endroit à l'autre. Puis surtout, on pose sa voiture et on marche. Et dans cet endroit-là, je ressens une forme de plénitude. J'ai l'impression vraiment de vivre pleinement les moments, parce qu'on a à la fois le visage cinglé par la pluie, par le vent. On a à la fois un paysage énorme autour de soi et puis un tout petit refuge au fond qu'on se dit qu'il va falloir atteindre après 2-3 heures de marche. Et parfois, à côté de ce refuge, ben je sais avec d'expérience qu'il y a une petite source chaude qui est plus ou moins connue. Et plus on s'éloigne des sentiers battus, plus on a des chances de se retrouver seul dans ces sources chaudes. Et là, c'est un moment de plénitude absolument extraordinaire. Vous êtes dans un endroit un peu abrasif, un peu brut, pas forcément accueillant en apparence, même si parfois les mousses, les herbes donnent des couleurs très douces. Et puis on se plonge dans une eau brûlante et on a l'impression d'être en contact direct avec la terre. Mmh. Et quand on voit les ciels islandais, qui sont des ciels extrêmement vastes, c'est une autre particularité de ce pays, c'est qu'il y a toujours des ciels très très vastes, même s'ils sont chargés, et ben on a l'impression d'être en contact avec la Terre et presque avec l'univers. Alors ça peut paraître un peu pompeux, mais c'est vraiment le sentiment que je ressens, et c'est pour ça que aujourd'hui je ne peux pas me passer d'aller en Islande une fois par an, plusieurs fois par an. C'est une espèce de balance avec la vie urbaine qui est quand même mon quotidien, et ces échappées-là sont des moments extrêmement précieux pour se rappeler ce qu'est le monde, ce qu'est la Terre et à quoi on appartient.
Et alors au milieu de ces paysages magnifiques que vous nous décrivez, il y a évidemment des humains, pas beaucoup, mais il y en a. Alors ce sont les Vikings qui, dès leur arrivée au 9e siècle, ont façonné l'identité de cette région. Qu'est-ce qu'il reste de ce peuple et de leur culture qui, dès les débuts, ont dû faire face à cette nature souveraine qui imprègne l'île et le quotidien de ses habitants?
Absolument. Les Islandais, comme vous le disiez, sont arrivés, donc ce sont des descendants de Vikings et, j'ai envie de dire, de Celtes, puisque les femmes... Les études ADN montrent que les femmes islandaises ont plus une origine celte que viking, tout simplement parce que les vikings faisaient des razzias, notamment en Irlande, et ramenaient des femmes avec eux en Islande. Donc ce sont des gens qui sont arrivés sur une terre qui était absolument inhabitée. Alors il se dit qu'il y avait quelques moines qui étaient là en ermitage, mais quand ils ont vu arriver ces hordes de grands gaillards tombés du bateau, ils se sont dit il vaut mieux partir. Et donc les Islandais, les vikings, ont créé un monde là où il n'y avait absolument rien, sur une terre où ils étaient à la fois soumis aux tempêtes, aux éruptions, une éruption à peu près tous les 5 ans, une grosse éruption, et à un climat qui, quand il n'y avait pas de tempête, et ben, il y avait quand même un climat, notamment dans l'Islande médiévale, extrêmement froid. Aujourd'hui, l'Islande est couverte de 10% de glaciers, à une époque c'était de plus. Donc il a fallu que ces gens fassent preuve d'une hardiesse, d'un courage, d'une ténacité absolument extraordinaire. Il y a un moment d'ailleurs, il a fallu, on a quasiment envisagé de rapatrier tous les habitants de l'Islande au Danemark, qui était la puissance coloniale de l'époque, parce que la vie devenait impossible. Mais ils se sont accrochés, ils sont restés là, et ça donne dans les Islandais d'aujourd'hui un caractère très fort, très indépendant. Ça, c'est vraiment quelque chose de marquant chez les Islandais, c'est leur indépendance, c'est leur esprit d'initiative. Dans ce pays, on a le droit de se planter, mais on n'a pas le droit de ne pas tenter les choses. C'est ce qui donne aujourd'hui ce foisonnement artistique, par exemple, c'est que tous les Islandais se lancent en se disant pourquoi pas, et ils produisent des choses absolument magnifiques, parce que l'endroit est très inspirant, parce que le système éducatif favorise l'expression de chacun, et donc ça donne un peuple, comme je vous disais, à la fois très indépendant, très créatif, très résilient, c'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment, eh ben, ça ferme sa maison, peut-être ensevelie par une coulée de boue, ça arrive, une avalanche, ça arrive très fréquemment, voire une éruption, c'est moins fréquent, mais c'est le cas aussi. Ça veut dire qu'on sait qu'on peut très bien aller acheter du poisson à 20 km de chez soi, et quand on revient, un pont a été emporté, et pour revenir chez soi, il faut faire 1400 km. Voilà, j'exagère pas, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Et les Islandais sont préparés à ça. Ils ont une grande phrase qui résume leur vision de la vie, c'est « setarelast ». Ça veut dire « tout va finir par s'arranger ». Donc c'est des gens qui ne paniquent pas, c'est des gens qui prennent la vie comme elle est, les événements comme ils sont, et qui avancent. Et c'est un pays qui, au début du siècle, était nettement le plus pauvre d'Europe, et qui est aujourd'hui, alors pour le meilleur et pour le pire, celui où le niveau de vie est le plus élevé en Europe avec la Norvège.
Alors dans cette ère reculée se déroule également une transhumance millénaire qui se perpétue encore aujourd'hui, c'est le rieti. Vous rencontrez ces éleveurs presque chaque année, est-ce que vous pouvez nous parler de cette tradition ancestrale ?
Le rieti, oui, c'est une tradition millénaire, puisque ça fait plus de 1000 ans que les éleveurs de moutons lâchent leurs bêtes au début de l'été dans les montagnes pour qu'elles pèsent tranquillement, et les récupèrent à la fin de l'été, au tout début de l'automne, en général autour du 20 septembre. Il y a environ 200 rieti dans tout le pays à cette époque de l'année. C'est des bergers d'une même région qui se retrouvent, se regroupent, et qui, avec des volontaires, des amis et aussi quelques bergers professionnels, eh ben, partent dans les montagnes pour aller chercher leurs bêtes. Alors on parle de territoires immenses, c'est-à-dire que celui que j'ai suivi le plus souvent, qui est vraiment au cœur des Hautes-Terres du Sud, eh ben, il faut imaginer que c'est la taille peut-être de l'Île-de-France, quoi. Les gens vont chercher 6000 bêtes dans quelque chose qui est vraiment extrêmement vaste, et qui est composé de vallées, de canyons, de crêtes, de montagnes, de rivières qu'il faut traverser avec à cheval, avec de l'eau jusqu'au cou parfois. Donc c'est une tâche exténuante, c'est en même temps une tâche qui renforce chaque année la solidarité entre les voisins, entre les habitants de ce pays, et qui quelque part leur rappelle qu'ils sont liés depuis toujours à cette terre et à son climat. Et donc les Islandais qui ont un peu perdu pied à un moment en étant très dans la consommation, dans les excès du crédit, qui achetaient n'importe quoi, et ben quand ils se sont retrouvés ruinés en 2008, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait, et à ce moment-là ils se sont retrouvés quelques valeurs cardinales de ce pays. Et donc le rieti a repris un regain, c'est-à-dire qu'il attirait de plus en plus de volontaires. Les gens voulaient revivre ces moments qu'avaient vécu leurs ancêtres, parce que tout le monde dans ce pays, même quand on vit à Reykjavik, a un ancêtre qui un jour ou l'autre a élevé des moutons dans un coin de la campagne, qui donc a perpétué cette tradition appelée rieti. Et au bout de 5-6 jours, quand on a récupéré toutes ces bêtes, eh bien on les emmène dans un lieu où se trouve un corral, donc une espèce de grand enclos rond. On met les bêtes là-dedans et toute la journée, chacun récupère et les ramène chez lui. Et ça, c'est vraiment un grand moment de joie. Les enfants qui n'ont pas le droit de participer au rieti avant l'âge de 14 ans vivent quelque part là leur petite initiation et la promesse qu'un jour, ils pourront eux aussi perpétuer cette tradition. et j'ai suivi 8 années de suite, je crois, le Rietir. Et les gens avec qui je parlais me disaient, pour nous, c'est un moment plus important que Noël. C'est vous dire que les Islandais sont très croyants, ils sont très respectueux des fêtes. Donc si c'est plus important que Noël, c'est que pour eux, c'est vraiment le moment clé de la communauté chaque année.
Olivier Joly, un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On arrive malheureusement au terme de cette émission.
Eh ben, écoutez, merci Thomas. Je voudrais juste ajouter un mot. Il m'est arrivé de guider en Islande des tout petits groupes de passionnés. Donc si des gens parmi vos auditeurs ont un jour envie de découvrir le Rietir ou de découvrir les hautes terres avec quelqu'un qui les aime, qui les connaît très bien et qui leur ferait partager tout ça, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Ça pourrait un jour ou l'autre donner l'occasion de faire un très beau voyage ensemble.
Bah super, on mettra ça dans la description, le lien vers votre site dans la description du podcast, ainsi que je rappelle vos deux ouvrages, hein, 4 saisons en Islande ainsi que Saga, paru aux éditions Emeria. On mettra également le lien vers le site. Et encore un très grand merci. Vous pouvez retrouver ces informations sur eradio.be ou radio.fr. Encore merci.